Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc poursuivre et engager les opérations, si vous voulez bien. Bienvenue à tous, bien sûr, et j'espère que vous allez passer un après-midi intellectuellement bien développé et fructueuse, certainement, pour l'avenir. Alors, je remercie le Président Boudet quand je lui ai proposé d'organiser ici cette manifestation. Et il a répondu avec enthousiasme. Ça nous a permis de réunir ici et d'engager ce projet initié par l'Association des auditeurs du Centre de haute études de l'armement. Tu m'excuseras, je ne vais pas donner la signification exacte de l'acronyme, mais effectivement, tout cela est né de ce que l'Association des auditeurs du Centre des hautes études de l'armement, maintenant à l'intérieur de l'institution de l'IHDN, Institut des hautes études de défense nationale, a initié un processus de révision de toute l'activité d'armement pendant la Première Guerre mondiale, que ce soit sur les questions d'ordre aéronautique, évidemment, nous y sommes aujourd'hui, mais aussi d'ordre d'armement terrestre, et aussi d'ordre d'armement naval.
Santé.
Et aussi de santé, puisqu'il y a un colloque, c'est venu très récemment, je crois, dans les locaux de l'hôpital de Grasse sur le sujet. Je remercie le président honoraire de cette association, qui est arrivé
avec difficulté
ce matin, après un voyage en avion de plusieurs heures depuis Paris, compte tenu des attentes sur les pistes des aéroports. Je remercie donc cette association qui, en tant que aussi chériste, m'a demandé d'organiser cette manifestation toulousaine sur un triptyque. Donc vous avez, je vous ai parlé à l'instant de ce qui s'est passé à Paris en médecine, en aéronautique au début du mois d'octobre, et il y aura une manifestation semblable chez nos amis bordelais. Nous sommes maintenant paxé avec nos amis montpelliérains, mais nos amis bordelais, nous les aimons bien, et les bordelais vont organiser une manifestation, je crois que c'est à la fin du mois de mars. Le 30 mars. Je remercie aussi certaines personnalités qui m'ont dit qu'elles seraient ici présentes, je ne les ai pas saluées, pardonnez-moi, mais je sais que dans le milieu toulousain, les associations de scientifiques en matière d'aéronautique, je pense à l'AE, je pense à la 3AF, m'ont apporté beaucoup de soutien pour préparer ces manifestations, et bien sûr les intervenants qui vont être là, qui sont devenus au fur et à mesure de nos travaux des amis. Je remercie aussi le colonel Taupin, qui se cache quelque part. Il est là, le colonel Taupin, qui est un aviateur aussi, bien sûr, et qui il peut se lever parce que c'est lui qui décore la salle aujourd'hui par ses œuvres. Vous avez vu à l'entrée. Ses œuvres picturales d'amateurs, je veux dire, elles ne sont pas à vendre. Vous en avez quelques-unes qui sont en bas de la diapositive. Il peut vous éveiller et à la pause vous pourrez les regarder de plus près. Effectivement, c'est un signe fort de la participation. Le sujet du colloque est l'envol de l'industrie aéronautique. On ne pourra pas parler d'un vol sans parler d'abord du travail préparatoire. Et donc, cette terrible guerre de la guerre de 14 a été la naissance de l'aviation militaire opérationnelle à partir de concepts qui n'existaient pas. Et c'est un des exercices auxquels nous avons livré ce matin, c'est-à-dire de comprendre comment le processus de force opérationnelle efficace est né pendant la guerre de 14, pendant cette guerre, surtout dans l'année 15-16, et surtout dans l'année 16 à ma connaissance, et que le processus qui était très erratique est devenu organisé. si j'insiste sur le sujet, c'est parce que j'ai une marotte personnellement. Chaque fois qu'on parle d'armement ou d'industrie d'armement, je commence par dire quel est le besoin. Et quel est le besoin quand j'enseignais la direction du programme ou la formation des gens investis au centre des hautes études d'armement ou à l'IHEDN, je leur rappelais toujours qu'il ne peut exister d'armes que dans la mesure où il y a un besoin imaginé, exprimé par les opérationnels, c'est-à-dire les gens qui vont engager leur vie sur le théâtre des opérations et réussir, bien sûr, ce que nous recherchons, c'est-à-dire la mise à bas de l'adversaire de façon à ce qu'il vienne à la table des négociations et que la paix arrive. L'objectif n'est pas de la détruire, mais simplement de l'amener à la négociation. Et c'est cela, la philosophie fondamentale de l'armement. Ensuite, quand on a conçu le besoin, qu'on a discuté, élaboré les spécifications techniques particulières pour satisfaire ce besoin, l'on va s'adresser, le maître d'ouvrage et la défense va s'adresser à des industriels qui vont réaliser. Et c'est ce grand débat que nous allons suivre aujourd'hui, cet après-midi. Mais, bien évidemment, vous êtes beaucoup, je pense, intéressés, vous, à ce qui s'est passé à Toulouse. Il y a plus de 1 500 000 personnes qui ont participé dans les usines d'armement en France pendant la Première Guerre mondiale à construire les armes. Le premier acte fondamental qui s'est passé au mois d'août 2014, ça a été la production de munitions, puisque très rapidement, certains régiments d'artillerie se sont retrouvés nuls. Ils n'avaient plus de munitions. Tellement la consommation a été importante parce que le concept de la guerre qui n'avait pas été imaginé comme elle s'est déroulée, effectivement, a été un concept de beaucoup plus grande consommation de munitions. Je n'oserais pas dire, mais ça, je laisserai à la conclusion le soin de dire pourquoi il n'y avait pas pensé. C'est de l'aspect politique de la conduite de la défense. Mais je dirais tout simplement, il n'avait pas assez construit de munitions. Donc le pays s'est mobilisé pour construire une très grande quantité de munitions. Et à Toulouse, presque 100 000 personnes, dans la région Midi-Pyrénées, presque 100 000 personnes ont été mobilisées au cours de la guerre pour construire des munitions, que ce soit à Toulouse même, où il y a eu beaucoup d'activités entre la poudrerie, la cartoucherie et les sous-traitants, à Tarbes, à Castres, à Pamiers. Effectivement, tous ces gens-là ont travaillé pour fabriquer des munitions. Mais aussi, il y a eu des initiatives aéronautiques, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je confierai la première partie de la tâche au professeur Olivier. Alors, je vais appuyer sur le bouton pour vous dire que pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marc Olivier n'est pas midi-pyrénéen, il n'a pas l'accent, excusez-moi, il est franc-comtois d'origine. C'est pour ça qu'il a commencé son métier à parler des clous, des horloges et des lunettes avec une virgule entre le clou et les horloges. Historien des industries et maintenant c'est un passionné de l'industrie aéronautique. Donc il vient sortir en bouquin l'année dernière qui s'appelle Histoire de l'armée de l'air et des forces aériennes françaises. J'ai fait la correction. Donc je lui laisse la parole. À vous.
Vous prenez